Club, Frédéric Taddeï.
Je reçois Eric Emmanuel Schmitt pour sa pièce L'élixir d'amour qu'il interprète avec Marie-Claude Pietragala au théâtre Rive Gauche, Cécilia Duterre pour ses conseils de séduction à l'usage des hommes de mauvaise volonté, Philippe Grimbert pour son roman sur les dernières années du célèbre danseur Rudolf Nureyev, ça s'appelle Rudik, l'autre Nureyev. Karen Brunon, elle est violoniste et maintenant chanteuse. Son premier disque s'intitule La fille idéale. Et Hervé Bourges, il a été le patron de TF1 et de France Télévisions à un moment charnière dans l'histoire de la télévision française. Il le raconte dans le livre 50 ans de télévision. Cette émission, vous le savez, est partie en exploration sur le style des années 2000, un style que tout le monde semble ignorer. On sait tout sur le style des années 60, 70, 80 et même 90, mais le style des années 2000, ça reste un mystère, heureusement. Tous les jours, je pose les questions à mes invités. Éric-Emmanuel Schmitt.
Ce qu'il y a de nouveau, on s'écrit. Et moi, ce que je trouve extraordinaire en ce moment, c'est le développement d'un art qui est l'art du SMS, qui est vraiment un art poétique et un art littéraire, parce qu'arriver à condenser sa pensée en deux, trois phrases, moi, c'est un exercice que j'adore. J'adore communiquer par SMS et je vois que ça y est, tout le monde s'y exerce.
Donc, ah oui, ça fait quelques années maintenant.
Mais oui, mais avant, c'était assez informatif, c'était avec des abréviations, etc. Tandis que maintenant, il y a des gens qui écrivent vraiment des SMS, comme on écrit des haïkus au Japon.
Cécilia Duterre.
Alors moi j'ai envie de vous parler d'amour, parce que l'amour est un art, une esthétique, une intelligence. Et je crois que ce qui a changé dans l'approche amoureuse ces dernières années, c'est Internet, les sites de rencontres. On est passé d'une drague physique incarnée, finalement fruit du hasard, à une drague virtuelle, très désincarnée en tout cas au départ, et puis multiple, exponentielle. Et très curieusement, cette ouverture des possibles amoureux nous a finalement refermé sur l'idée du couple, sur l'idéal du couple, qui est devenu finalement une valeur refuge.
Alors, le couple a toujours été une valeur refuge, non? On va en parler au cours de cette émission.
Oui.
Mais vous êtes sûr que tout le monde est sur Mythique?
Ah, tout le monde n'est pas sur Mythique. Je pense qu'il y a beaucoup de sites de rencontres, mais finalement, je crois que peut-être sans le dire, beaucoup de gens cherchent toujours le grand amour.
Ils le cherchent sur Mythique. Moi, j'ai l'impression qu'on cherchait des partenaires sexuels d'un soir.
Ah, mais vous croyez? Mais je ne suis pas si sûre. Je ne suis pas si sûre.
Philippe Grimbert.
Oh, je vais peut-être jouer un peu les esprits chagrins, mais même si comme Éric-Emmanuel Schmitt, j'aime bien l'idée d'une nouvelle forme de langage, il y a quand même quelque chose qui me gêne dans le rapport aux autres actuels, c'est-à-dire sur cette communication qui n'est pas forcément un échange, et sur le fait que les gens sont plus en rapport avec des absents qu'avec des présents. Présents
physiquement.
Présents physiquement, c'est-à-dire qu'on voit bien que chacun, par exemple dans les transports en commun, est en relation avec quelqu'un qui n'est pas là, plutôt que d'être à l'écoute de ceux qui sont là. Moi qui suis quelqu'un qui est une sorte de vampire qui écoute les conversations dans le train, dans le métro, parce que j'adore, c'est aussi une matière à écrire, eh bien, la plupart des autres qui sont là sont à l'écoute soit d'eux-mêmes, de la musique, soit à l'écoute de quelqu'un qui n'est pas là et qui, du coup, est beaucoup plus présent pour
mais
eux
c'est
que
pas seulement,
celui qui est en face d'eux.
C'est pas seulement dans les transports en commun, dans les familles
partout, bien entendu, bien entendu.
Karen Brunon.
Alors moi, j'aurais envie de parler de la musique. J'ai l'impression que nous, on nous compare toujours à quelqu'un du passé. Donc c'est difficile de dire ce qui est de nouveau, mais j'ai l'impression qu'on fait du nouveau avec l'ancien et c'est heureusement. Enfin voilà, c'est ce qui nous a nourris pour écrire une chanson. On en écoute d'autres d'abord. Donc voilà, pas vraiment quelque chose de nouveau, mais...
Mais il faut qu'on arrête de vous le reprocher, quoi.
Oui, pas le reprocher, en tous les cas. Enfin, souvent, en tous les cas, moi, je prends pas ça comme un reproche quand on compare à quelqu'un. Et effectivement, faut pas le reprocher aux jeunes de vouloir se servir de ce que les gens ont fait avant et qu'ils ont bien fait.
Hervé Bourges.
Écoutez, je vais dire un petit peu la même chose que tout le monde, mais on peut pas nier l'importance considérable qui va aller en s'accentuant d'Internet. et du numérique qui bouleverse les données. Aujourd'hui, aucune information ne peut rester sur l'hexagone. Quand on vient nous dire aujourd'hui la loi de 1905 sur la laïcité, qu'est-ce que ça veut dire la loi de 1905 en Thaïlande, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire dans un certain nombre d'autres pays? Et ça, on a des lois hexagonales pour une mondialisation que nous ne maîtrisons pas. Nous avons à côté de ça la possibilité de permettre aux esprits de s'ouvrir. Et en même temps, et c'est contradictoire ce que je vais dire, si penser c'est dire non, comme le disait Alain, nous avons un esprit moutonnier extraordinaire, créé précisément par le net. Tout le monde dit la même chose au même moment. Et c'est quand même un petit peu ennuyeux, la pensée unique se développe. Et puis la langue française, malheureusement, est mise en mauvais état dans nos médias, dans nos administrations, chez nos petits marquis qui sont au pouvoir et qui pensent que c'est bien de baragouiner en anglais. Je voudrais vous dire ici, j'appartiens à une petite association qui s'appelle la Carpette Anglaise. Nous venons de donner le prix de la Carpette Anglaise de cette année à M. Moscovici, qui vient d'écrire une longue lettre à M. Michel Sapin, qui était son collègue il n'y a pas longtemps, dans laquelle il commence en disant « Dire Michel », et toute la lettre est en anglais.
Mais c'est parce qu'il est commissaire européen.
En anglais, d'un bout à l'autre. Et puis on a donné le prix international à Madame Paula Oscar Romano, qui est directrice du département des langues, qui s'est permis, lors de la Commission européenne, de tancer en anglais une responsable associative qui sollicitait en italien et qui avait qualifié à cette occasion l'italienne de langue exotique, en disant parlez anglais, s'il vous plaît. Alors je crois que dans ce domaine-là, vraiment, et les médias apportent une responsabilité, je dirais, extraordinaire.
Je vous promets, on va parler français uniquement.
Non, mais
français.
C'est très important, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'école et de ce qu'il faut en parler avec ce qui vient de se passer, mais la langue française est un. Et on parle de notre identité, on dit n'importe quoi, on a dit n'importe quoi sous les précédents gouvernements. Je voudrais quand même rappeler ici que la langue française est un facteur d'unité nationale. Et qu'en plus, cette langue, nous l'avons imposée à des millions de gens par le biais du colonialisme. Ils s'en sont saisis. Comme dit Kateb Yassine, c'est un butin de guerre. Hein. Et comme dit Camus, la langue française, c'est ma patrie. Mais il faudrait peut-être qu'on s'en souvienne un petit peu et que dans ce domaine, les responsables politiques, comme les responsables des médias, prennent ce vrai problème.
Europe 1 Social Club. 20h, 22h. Frédéric Taddeï.
On va beaucoup parler du couple dans cette émission. Alors commençons par Éric Emmanuel Schmitt qui interprète avec Marie-Claude Pietragala et l'Élixir d'amour, une pièce que vous avez écrite, Éric Emmanuel. Ça va durer 40 représentations exceptionnelles au Théâtre Rive-Gauche, donc jusqu'au 14 mars à peu près, si mes calculs sont bons. Vous voilà pour la première fois sur scène, Éric Emmanuel Schmitt, donc comédien. Vous étiez déjà auteur de théâtre, romancier, réalisateur, propriétaire d'un théâtre, le Théâtre Rive-Gauche en l'occurrence. Vous voulez contrôler toute la chaîne de production?
Non, j'avais envie, tout simplement. J'avais envie.
Pourquoi cette envie? À un moment, c'est naturel. À force d'écrire, on a envie de dire ce que l'on écrit.
Non, c'est à force de passer sa vie dans les théâtres, puisque moi, depuis, même avant déjà d'être joué, mais ça fait plus de 20 ans que je passe ma vie au théâtre, et parfois dans des théâtres du monde entier, où que j'ai la chance d'arriver dans des salles comme ça, magnifiques. Et moi, quand je rentre dans un théâtre, j'ai le sentiment d'abord d'échapper absolument à la réalité quotidienne, parce qu'on rentre dans un lieu où tout est possible. Et puis un jour, c'est vrai qu'on m'a poussé sur scène pour remplacer Francis Lalanne, qui jouait Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, parce que 9 soirs, il ne pouvait pas jouer. Et évidemment, comme dès qu'on me propose un défi, moi, je le relève. Et donc, je l'ai remplacé pour jouer Monsieur Ibrahim. C'était un monologue d'une heure et demie. Les premières fois, j'ai vomi, avant, après, etc. Et à la 15e, puisque finalement, je suis parti en tournée après, j'ai arrêté de vomir en me disant « mais c'est vraiment agréable de vivre les émotions d'un récit avec le public ». Et ça, c'est un sentiment presque océanique qui est absolument extraordinaire. Alors, du coup, quand on a décidé de monter l'Élixir d'amour, Steve Chissa, le metteur en scène qui m'avait vu jouer... Le problème aussi, c'est qu'il y a plein d'acteurs depuis 20 ans qui me disent « tu sais, t'es comédien, tu devrais jouer », parce qu'ils me voient en répétition, etc., etc. Et j'étais assez con pour les croire. Donc, je suis monté sur scène, mais je partage la nouveauté avec...
Avec Pietragala.
Voilà, parce que Pietragala, c'est aussi sa première fois, pas sur scène, elle y a passé aussi sa vie, mais la première fois au théâtre, avec un vrai rôle psychologique.
Même temps, c'est adapté d'un roman épistolaire, hein, L'Élixir d'amour, paru l'année dernière, dont Frédéric vous écrivez. C'est déjà un entre-deux, vous n'êtes pas encore à vous taper dessus. C'est là que le métier de comédien commence.
Mais un roman épistolaire, vous savez, le roman épistolaire, c'est du théâtre dans le roman, puisqu'on n'entend que la voix des personnages. Il n'y a pas de narrateur omniscient qui décrit les choses. Donc c'est déjà du théâtre, un roman épistolaire. Et là, évidemment, les deux héros, Adam et Louise, viennent de se séparer. Ils sont à distance, puisque elle a mis un océan entre sa précédente passion, Adam, et elle. Elle est partie à Montréal, elle est avocate, lui est psychanalyste parisien. Et en fait, ils n'arrivent pas à se passer l'un de l'autre. Lui, il lui écrit tous les jours.
Justement, c'est de cela que je voudrais que l'on parle. Parce que c'est l'idée, pourquoi se parle-t-il à ce point alors qu'ils viennent de se séparer? J'ai l'impression que le couple est devenu notre dernière aventure. C'est la seule qui ne soit pas réglementée. C'est un peu notre jungle à nous, la dernière qui nous reste. Et on cherche tous une espèce de potion magique. On va le voir aussi également avec Cécilia Duterre. Une potion magique pour que ça ne se finisse jamais.
Mais vous avez raison, c'est une aventure. Parce que multiplier les aventures, c'est revivre toujours la même chose.
Ça dépend.
Bon. Voilà, les premiers rendez-vous.
C'est une réflexion monogame, ça.
Les premiers éblouissements. Non, pas. Mais malgré tout, il y a une reproduction du même. Et puis, il n'y a jamais le moment où on rentre véritablement dans... Moi, je trouve que l'amour commence après la passion. C'est-à-dire quand tout d'un coup, on n'est plus dans l'illusion ou dans l'enchantement de la première fois. On n'est plus simplement dans l'état amoureux. On rentre dans l'amour. Et ces deux personnes, moi, dans la pièce, les deux personnages, en fait, ils s'aiment toujours, mais ils s'aiment mal. Alors, en ce moment, ils s'aiment sous la forme de la séparation. C'est une façon de s'aimer, c'est-à-dire que lui veut une amitié avec cette femme, et elle, évidemment, humiliée par la proposition d'amitié, la refuse, mais elle le hait passionnément. C'est-à-dire, la passion est toujours là.
Alors, mais pourquoi vouloir prolonger la vie d'un couple, tant qu'il était amoureux, ce couple, on le comprend, mais une fois qu'il ne l'est plus, pourquoi est-ce qu'il le veut, lui, puisque c'est lui qui insiste? Pourquoi il a de mauvaise conscience, il a des regrets,
non,
il a des remords?
Parce qu'en fait, il ne peut pas passer une journée sans penser à cette femme, sans avoir envie de lui raconter ce qu'il vit, sans avoir envie de lui faire partager tout ce qu'il découvre. En fait, il est lié, il l'a beaucoup trompé.
Donc maintenant, il veut lui raconter qu'il la trompe, au fond. C'est ça. Avant, il ne pouvait pas, maintenant, il peut.
Ce qui va se passer dans la pièce, c'est que chacun va raconter, entre guillemets, sa nouvelle vie, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On a l'impression que soit ils ne vivent des choses que pour leur raconter à l'autre et voir sa réaction, soit que carrément, peut-être, ils ne le vivent pas, mais ils essayent de débusquer l'autre dans ses sentiments. Non, mais ça existe, ces espèces de rapports essentiels entre des êtres qui n'arrivent pas plus à vivre ensemble qu'à se quitter. Le genre ni avec toi, ni sans toi. Et eux, ils sont absolument comme ça. Mais peut-être parce qu'ils ont aussi une conception... Elle a une conception un peu, comment dirais-je, absolutiste de l'amour.
Quand on un a... peu féminine, on l'a... souvent, ils se définissent l'un l'autre comme un homme et une femme.
Oui, elle,
les femmes aiment l'amour, dit-il, les hommes le font.
Oui. C'est-à-dire que pour lui, le problème, c'est que amour, il y a un seul mot pour amour pour désigner deux territoires absolument différents, le territoire du sentiment et le territoire du sexe. Dans le territoire du sentiment, c'est vrai que le passage du temps n'est pas dévastateur. Les sentiments peuvent durer très longtemps. Au contraire, le propre d'un sentiment, c'est qu'il est un attachement qui dure, à la différence de l'émotion. Et en même temps, l'amour, ça désigne aussi le territoire du désir, où là, c'est plus fugace. Qui peut promettre d'avoir toujours du désir pour quelqu'un? Qui peut promettre d'avoir toute la vie sa fièvre? La fièvre, non. Et le problème, c'est que nos histoires d'amour, elles sont à la frontière de ces deux pays, le pays du sentiment et le pays du désir. Donc c'est assez compliqué, parce que parfois le désir s'en va, mais est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'on décide de traverser le désert en se disant qu'il y aura une oasis? Ils sont chacun dans une réflexion totalement différente par rapport à l'amour. Et lui est très... Elle a le goût de l'absolu, c'est-à-dire le goût du malheur, parce que si on veut qu'une relation soit parfaite, autant renoncer à vivre. Lui, il est dans une espèce de machisme assumé, du genre le fait que je désire d'autres femmes n'a rien à voir avec toi, ce n'est pas une insulte que je te porte, etc. En fait, ils sont tous les deux dans une pause. C'est-à-dire, ils se racontent quelque chose sur l'amour. Et ce qui va se passer dans la pièce, dans l'élixir d'amour, c'est que ils vont perdre cette pause et cette illusion pour découvrir leur propre vérité, leur propre souffrance. Et peut-être qu'à la fin, ce sera deux personnages un peu cabossés, mais enfin lucides, qui vont pouvoir se trouver.
Le message de cette pièce, Éric-Emmanuel Schmitt, j'ai l'impression que c'est que l'amour, c'est un pari. Oui. Et que vous comparez au pari de Pascal, d'ailleurs, qui disait, autant parier sur l'existence de Dieu, ça coûte moins cher que de parier sur sa non-existence.
Exactement.
Au fond, c'est la même chose. L'amour, c'est un pari. On parie à un moment qu'on va être amoureux.
Bah, on est, être amoureux, c'est pas compliqué, mais être amoureux n'a rien à voir avec aimer. Être amoureux, c'est un état. Aimer, c'est engager une relation et construire une relation. Et effectivement, mais ces personnages vont faire le pari de l'amour, parce que qu'est-ce qu'il y a à perdre, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a plus à gagner qu'à perdre. Donc c'est comme un pari pascalien, ça serait quoi, un pari à la Marivaux, je sais pas comment on pourrait appeler ce pari-là. Mais effectivement, je crois que le problème, c'est que les gens attendent quelque chose de l'amour, alors que c'est l'amour qui attend quelque chose d'eux. Les gens attendent quelque chose de l'amour, c'est-à-dire ils se disent, bon, à partir du moment où j'aime, où je suis amoureux, tout va se mettre en place. Ben, non. C'est l'amour qui attend quelque chose des gens, c'est-à-dire de faire exister l'amour. Donc c'est, pour moi, c'est à nous de montrer qu'il est possible d'aimer profondément, longtemps, et d'une façon vivante et en même temps qui se renouvelle, profonde. C'est à nous de prouver que l'amour existe. Et l'amour n'a rien à nous prouver.
L'élixir d'amour, une pièce d'Éric-Emmanuel Schmitt, interprétée par Éric-Emmanuel Schmitt et Marie-Claude Pietragala. C'est au Théâtre Rive-Gauche jusqu'au 14 mars.
Mise en scène par Steve Fissard.
Repas Social Club. Frédéric Taddeï.
Cécilia Duterre, vous aussi, vous êtes obsédée par le couple. Vous publiez « Conseils de séduction à l'usage des hommes de mauvaise volonté » aux éditions du Rocher. De quelle mauvaise volonté parlez-vous ?
Ah, mais moi, je parle des affreux Jojo. Évidemment qu'on a toutes rencontré un jour sur notre route.
Bien les hommes.
Les hommes, non, certains types d'hommes. Je parle des turpitudes masculines et je parle du rapport complexe, en fait, amoureux, beaucoup plus que des hommes. Je parle du rapport amoureux, tortueux, souvent très tortueux, parfois pervers, pas toujours. Et je parle des turpitudes masculines et de la matrice qui va avec, je dirais.
Oui, en fait, nous sommes tous bourrés de défauts, je parle des hommes, hein, de turpitudes, de névroses. Au lieu de les dissimuler, il faut les brandir afin d'en faire des outils de séduction. Mais attention, il faut bien choisir sa proie.
Voilà, exactement. Parce que mes conseils, ce ne sont pas des conseils pour s'améliorer, entendons-nous bien. C'est un pamphlet humoristique, satirique, un peu grinçant, comme vous l'avez vu. Et ce sont des conseils pour, au contraire, que les hommes s'aggravent. Parce que je crois qu'à toute turpitude, effectivement, correspond son amatrice. Freud disait que le couple, ce sont deux névroses qui s'emboîtent. Donc je suis partie de ce constat, qui me paraît tout à fait désopilant.
Et, donc en fait, on pourrait le traduire par « chaque peau a son couvercle ».
Voilà, exactement. Mais il faut donc choisir le bon couvercle. Et donc, je dis à chaque homme, et donc à chaque vice, puisque je dépeins, je croque une vingtaine de portraits que je range dans des profils très particuliers, les tyrans, les peureux, les romantico-mystiques, les perturbés érotiques, etc.
On va les voir, mais au fond, ce sont des conseils pour s'établir en couple,
voilà.
Et pour continuer de séduire longtemps sa femme.
Hein. Bien sûr.
Et c'est là qu'on voit que c'est écrit par une femme, puisque le couple...
Oui, en même temps, quand j'écoute Éric-Emmanuel Schmitt, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus romantique que certaines femmes. Sa notion de l'amour est au contraire très belle, magnifique, et finalement je trouve que les hommes sont très romantiques aussi.
Et si une femme le lit, votre livre, Cécilia Duterre, qu'est-ce qu'elle y gagne ?
Qu'est-ce qu'elle y gagne de en fait, elle se rend compte aussi que quelque part elle participe de cette joute amoureuse, encore une fois souvent tortueuse, et je lui apprends aussi à rebondir sur les travers de sa moitié, parce que c'est ça aussi la durée du couple, mais encore une fois, vu sous l'angle humoristique, hein, ce sont encore une fois pas de vrais conseils psychanalytiques ni sociologiques.
Néanmoins, on peut les prendre au sérieux.
On peut les prendre au sérieux, bien sûr, mais c'est pas un manuel écrit au sérieux.
Par exemple, c'est vraiment du
second degré.
Vous commencez par des conseils aux pervers narcissiques. Alors, ils doivent être légion, les pervers narcissiques, puisqu'on n'arrête pas de parler des pervers narcissiques. Philippe Grimbert, vous qui êtes le seul psychanalyste dans cette émission.
La question piège, on va m'interroger sur les pervers narcissiques.
Non, mais il y a 4-5 ans, vous étiez les psychanalystes, étaient les seuls à parler, et les psychiatres évidemment, étaient les seuls à parler de pervers narcissiques. Aujourd'hui, tout le monde en parle.
C'est un terme tout à fait à la mode. Combien de femmes disent « je me suis aperçu que j'étais mariée à un pervers narcissique ». On entend souvent ça aujourd'hui. Alors, il y a les pervers narcissiques, évidemment, il y a les bipolaires, enfin tous ces termes qui sont devenus complètement... qui ont rempla- remplacer finalement la perversion et même la psychose maniaco-dépressive. Bipolaire, c'est plus aseptisé que psychotique, c'est sûr, et pervers narcissique, ça laisse entendre que c'est un trait de personnalité, alors que pervers, c'est une structure de personnalité qui est sacrément dangereuse pour l'autre.
Un pervers narcissique, c'est quand vous vous noyez, quelqu'un qui enfile un gant, on pourrait dire couvert d'huile pour vous tendre la main, ce serait ça?
C'est ça, hein, voilà. En tout cas, le pervers narcissique prend plaisir à la souffrance de l'autre.
Donc qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil au pervers narcissique?
En l'occurrence, le pervers narcissique, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui sait percer à jour les femmes. Donc il va voir immédiatement, l'insatisfaction féminine étant absolument débordante, il va voir exactement chez la femme, là, son désir insatisfait.
Et il va elle venir... est insatisfaite parce que Eric Emmanuel Schmitt le disait tout à l'heure, elle veut toujours quelque chose de parfait.
Elle veut toujours quelque chose de parfait, c'est vrai. Elle veut quelque chose de très romantique, elle veut toujours quelque chose qu'elle n'a pas surtout. Et donc, il va le voir et il va faire ce qu'il faut pour venir combler ce désir. Donc il va faire ce qu'il faut, il va le dire ce qu'il faut, c'est trop beau pour être vrai, mais elle va y croire. Et il va commencer à jouer avec sa proie. Donc je lui apprends à jouer mieux et à savoir et surtout quelle prof... à quelle proie s'attaquer.
Voilà, qui,
donc moi
qui...
je lui conseille déjà d'adresser ses attentions, non pas aux multiples, mais à l'individuel. Très, très important. Qu'il prenne la canne à pêche, qu'il oublie le filet. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il aurait tout intérêt à s'adresser à une femme mariée, par exemple. Une femme mariée qui peut rencontrer la routine dans son couple. Et là, il va jouer, et puis tout d'un coup, il va lui dire, par exemple, que non, son amour est tellement fort pour elle que finalement, il ne souffre que il ne voudrait que l'exclusivité. Et donc, à ce moment-là, il va lui parler d'amitié, on en parlait tout à l'heure, et il va faire silence. Enfin, il y a plein de choses qu'il peut faire pour jouer avec sa proie. Puis quand il en aura assez, quand il aura aspiré tout le suc de sa proie, il passera à une autre.
Cécilia Duterte, vous vous adressez aux jaloux, vous vous adressez à l'égoïste. Vous donnez aussi des conseils au mari et à l'amant, parce que vous dites qu'ils forment un couple indissociable, sans se connaître. Ils marchent main dans la main. Pourquoi la main?
Bien sûr. Alors dans mon esprit tortueux, encore une fois, dans l'esprit tortueux de ce pamphlet, ils marchent de main dans la main, c'est un couple indissociable parce que finalement ils sont collaborateurs. Le mari est un socle, parce qu'on rien ne se fait dans la vie sans construction, sans garantie, sans routine, sans paix de l'âme. Le mari, c'est une paix de l'âme. Il n'y a plus d'enjeu avec le mari. On n'est plus amoureux, on l'aime. Vous l'avez dit tout à l'heure. Pas de problème. Et l'amant arrive et lui, c'est tout le contraire. Lui, il faut qu'il soit fougueux, il faut qu'il anoblisse les SMS justement. On passe le SMS du mari, c'est n'oublie pas de chercher le pain, et le SMS de l'amant, c'est je te veux.
Vous êtes sûr que le mari n'envoie pas de SMS?
Qu'il en envoie,
rappelez-vous
bien sûr.
Napoléon, lave-toi, trois petits points, j'arrive. Et pourtant, ils étaient mariés avec Joséphine.
Mais finalement, le mari a tout à gagner de l'amant, parce que on n'est jamais trop de deux pour entretenir une épouse fraîche et désirable.
Et le mari volage, puisque c'est le mari qui est aussi un amant, lui.
Oui, alors ça peut arriver. Ça, c'est un cas, un autre sous-cas,
je dirais. C'est le personnage d'Éric Emmanuel Schmitt, enfin du moins avant qu'il ne se sépare.
Alors le mari volage, très important, il ne doit pas être terrassé par la culpabilité. Donc il doit réfléchir avant toute chose, justement, à ses désirs, est-ce que, voilà, et à la mise en acte. S'il passe à l'acte, au moins il y aura, avec une saine introspection, réfléchi préalablement, et donc il fera son adultère, il n'ennuiera pas sa femme avec des considérations coupables, et il n'ennuiera surtout pas...
Faudrait surtout pas qu'elle s'en aperçoive.
Un conseil très important, parce que beaucoup de maris, et c'est pourtant un conseil béotien, mais beaucoup de maris l'oublient. La première chose qu'ils oublient, mais pourquoi? Parce que quelque part, ils se sentent coupables.
Il y a les peureux, il y a un chapitre sur les seniors, les obsédés sexuels, que vous appelez très gentiment des perturbés érotiques. Pourquoi ne pas les appeler des obsédés sexuels?
Qui comprennent les priapiques triomphants, ou alors, pendant contraire, l'amputé du désir.
Et puis, il y a les gentils, évidemment. Il y a aussi un conseil, des conseils aux philosophes prétentieux. Karen Brunon, ça vous parle, tout ça? Vous croyez que les femmes aiment bien qu'on leur donne ce genre de conseils? Et les hommes aussi, par la même occasion?
Alors, moi, non. Ça m'a mis une boule au ventre, là, de vous entendre parler. Non. Moi, j'aime souffrir de mes ruptures. Et j'ai pas envie de savoir comment...
Ça voilà. Que vous en parlez en plus, vous aussi, mais en chanson.
J'aime mes ruptures, j'aime aimer l'amour, j'y crois, je trouve ça magnifique, même si je passe pour... je sais pas, mais en tous les cas... Non, ça me.
Il y a des chansons
qui donnent
des conseils. On n'écoutera rien tout à l'heure. C'est une chanson qui au fond, ouais. Qui est presque un manifeste.
Ouais.
Donc vous voyez, pourquoi pas. Commentaire, Éric Emmanuel Schmitt, sur ce que dit Cécilia Duterre.
J'ai l'impression qu'elle a bien catégorisé les hommes, mais je ne sais pas où se situe son ironie, son premier, son deuxième et son troisième degré.
Alors c'est du troisième degré, au moins, voire du quatrième ou du cinquième. Non, c'est vraiment encore une fois, histoire de montrer à quel point toute ma recherche littéraire, là je parle au sens beaucoup plus large que ce pamphlet, dans mes romans, c'est autour justement du couple, du désir et de la complexité vraiment de cet emboîtement qu'est le couple. Donc là, c'était généralement j'en parle de façon très grave et là j'en parle de façon très légère et très ironique, comme vous le dites, et très mordante, ouais. Parce que je pense qu'il faut aussi se détendre avec ça et savoir que chaque couple, mon Dieu, est un peu pervers, est un peu tortueux et gâche de durabilité.
Conseil de séduction à l'usage des hommes de mauvaise volonté, c'est signé Cécilia Duterre et c'est paru aux éditions du Rocher. On se retrouve dans un instant avec Philippe Grimbert, Karen Grunon, Hervé Bourges, Éric Emmanuel Schmitt et Cécilia Duterre.
20h, 22h, Europe 1 Social Club.
Au programme donc de cette émission, le couple, la psychanalyse, le plus grand danseur du monde, la télévision, on va voir ça avec Hervé Bourges. Mais d'abord, Philippe Grimbert, vous êtes l'auteur du Secret, qui a été un grand succès de librairie avant de devenir un film de Claude Miller avec Patrick Bruel et Cécile de France. Vous êtes psychanalyste et vous venez de publier un roman sur Rudolf Nureyev intitulé Rudik, l'autre Nureyev, ça vient de sortir chez Plon. Qu'y a-t-il de vrai dans ce roman? Avant qu'on en parle, il faudrait le savoir.
C'est drôle parce que finalement c'est la question que tous les lecteurs posent aux auteurs. Mais qu'est-ce qui est autobiographique? Qu'est-ce qui est vrai dans ce que vous avez écrit?
C'est normal puisque il y a la mode des biopics romancés, voilà. Depuis quelques années, alors, c'en est un.
Alors ce qui est vrai, c'est que ce roman est une histoire d'amour et une histoire de couple, puisqu'on est dans le sujet. Un couple au sens où, comme disait Freud, le psychanalyste et son patient sont une foule à deux, mais sont un couple. Et c'est une histoire d'amour au sens où Freud entendait l'amour de transfert, c'est-à-dire oui. Ce sentiment si singulier qui lie le thérapeute à son patient et réciproquement.
Donc parle également Éric Emmanuel Schmitt dans l'élixir d'amour.
C'est le transfert.
C'est le transfert. C'est,
voilà, dans la pièce que j'ai écrite.
C'est un élixir d'amour, voilà. En effet, qui a des vertus assez magiques, d'ailleurs, exactement. Puisque c'est le moteur de la cure et que sans cet élixir, ça ne fonctionnerait pas. Donc en effet, il y a un couple et il y a de l'amour dans cette histoire. À ceci près qu'évidemment, ce n'est pas un couple au sens amoureux traditionnel, mais c'est quand même un couple.
C'est Rudolf Nureyev, donc, chez son psychanalyste.
Voilà. Ce qui est vrai, donc, c'est que la situation telle que je la décris est réellement une situation analytique. Ce qui n'est pas vrai, si l'on veut aller du côté de la fiction, c'est que je n'ai pas été l'analyste de Rudolf Nureyev.
Et vous n'avez pas rencontré...
Je l'ai rencontré.
Le véritable analyste de Rudolf Nureyev.
Ah non, je n'ai pas rencontré l'analyste de Rudolf Nureyev. J'ai rencontré Rudolf Nureyev. Ça m'est arrivé dans ma vie pour des raisons matrimoniales. Je n'étais pas marié avec Rudolf Nureyev, mais avec son assistante.
Vous l'avez bien connu.
Je l'ai bien connu, voilà. Donc je pense que le portrait que j'en fais est assez authentique et... ceux qui l'ont connu reconnaîtront sa façon de s'exprimer, sa façon de se comporter. Mais ce qui m'intéressait, parce qu'il s'agit d'un roman et surtout pas d'une énième biographie de Rudolf Nureyev que tout le monde connaît à peu près. Ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer cette rencontre particulière qu'il pourrait y avoir entre cette star au caractère si affirmé et un analyste qui aura à résister à cet empereur, ce tsar, cette star, il y a les mêmes lettres, hein, qui régnait sur les rats, encore les mêmes lettres, dans tous les arts, encore les mêmes quatre lettres. Il y a vraiment quelque chose là de très fort chez lui qui évidemment pouvait mettre un psychanalyste en difficulté. Ça m'intéressait d'y réfléchir. Alors, ce qui est vrai quand même dans ce roman, c'est qu'un jour, Rudolf Nureyev m'a demandé, c'était aux États-Unis, si en tant que psy j'avais une idée sur le pourquoi ses admiratrices américaines étaient toutes en surpoids ce qui était une question qui m'a un peu surpris en tant que psychanalyste.
Vous voulez dire qu'elles étaient tous, elles tendaient vers l'obésité, oui, comme la plus grande partie d'ailleurs de la nation américaine.
Oui, mais Bruno voulait penser que c'était essentiellement ses admiratrices qui étaient en surcharge pondérale. Donc il m'a posé la question de savoir si j'en avais une idée et si j'avais un point de vue sur la question en tant que psy. Et là, il s'est passé quelque chose de curieux parce que j'aurais pu, puisque j'étais déjà psychanalyste et que j'avais un peu d'expérience de la façon dont un psychanalyste peut répondre à une question d'un supposé patient, ou même une question tout venant. Et je me suis laissé embarquer en lui disant que non seulement j'allais réfléchir, mais j'allais lui écrire un texte là-dessus. Et c'est là que j'ai vu les effets de ce que j'appelle le contre-transfert. C'est-à-dire qu'une star absolue me demande quelque chose à moi, psychanalyste relativement aguerri. J'obéis, non seulement j'obéis, mais j'en rajoute. Je dis, mais oui, je vais vous écrire un texte. Et bien sûr, il se passe ce qui se passe. C'était évidemment ce qui m'attendait. J'écris ce texte, je me donne la peine, je lui donne. Et bien sûr, il ne m'en a jamais rien dit. Voilà. Bon, on en est dans une situation qui m'a donné l'idée que peut-être il y avait quelque chose à faire à partir de ça. Qui n'est pas un roman sur Rudolf Nureyev, bien qu'il en soit le héros, ni une biographie, je dis bien, mais plutôt l'histoire d'un couple fasciné mutuellement, où on peut se poser en effet la question de savoir qui sera l'analyste de l'autre, ou qui va réellement, ce qui est plus juste, mener la danse dans cette
Alors,
histoire.
Alors ça se passe à un moment particulier, on l'a compris, le narrateur dans ce roman est un psychanalyste, il s'appelle Tristan Feller, on est à la fin des années 80, Nureyev est toujours considéré comme le plus grand danseur du monde, il a la cinquantaine, il danse encore, il est le directeur du ballet de l'Opéra de Paris, mais on se souvient évidemment que Nureyev a fait ce qu'on avait appelé à l'époque le saut vers la liberté en 61, à l'aéroport du Bourget, alors qu'il était gardé par le KGB, il a sauté à un moment, fait ce qu'il appelle un grand jeté pour s'échapper, pour demander l'asile politique en France. Et alors, quand le roman commence, c'est qu'il vient de retourner pour la première fois en Russie pour voir sa mère mourante. Il ne l'avait jamais revue, et c'est Gorbatchev qui, à ce moment-là, est arrivé au pouvoir, qui a permis à Nureyev, qui avait été le plus grand dissident, le plus célèbre, de revenir en Russie.
Et c'est ce célèbre en Europe, mais pas en Russie. Europe, on ne connaissait pas son nom.
En Russie, on n'avait plus le droit de parler de Nureyev depuis 25 ans. Et là, il vient de revenir de Russie. Et c'est là qu'il éprouverait le besoin de rencontrer un psychanalyste.
Il fallait trouver. J'ai quand même toujours le souci d'abord que le roman soit vraisemblable sur le plan de l'univers de la danse qui est décrit, mais aussi sur le plan de la dynamique psychanalytique. Et je me suis demandé qu'est-ce qui aurait bien pu. Vous voyez, je dis même qu'est-ce qui pourrait bien, comme si ça se passait réellement, mais ça, c'est typique du romancier qui fait de sa fiction un souvenir personnel. Mais qu'est-ce qui aurait pu amener Rudolf Nureyev à demander de l'aide et à venir consulter un psychanalyste? Et je me suis dit que s'il y avait une vraie blessure, c'est quand même ce retour dans un lieu où il n'a pas été reconnu, un des seuls lieux du monde, peut-être le seul lieu du monde où on ne le reconnaît pas, et à ce moment-là, il va voir sa mère qui ne le reconnaît pas non plus. Et là, ça provoque quelque chose.
Et c'est vrai qu'il est allé voir sa mère à ce moment-là. Et que
voilà,
c'est vrai
ce qui est moins sûr, c'est qu'elle ne l'ait pas reconnu. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il est allé voir sa mère et peu de temps avant qu'elle décède, et qu'évidemment, ça a été un moment extrêmement bouleversant pour lui.
Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Toujours avec Philippe Grimbert qui publie Rudik, l'autre Nureyev aux éditions Plon. C'est un roman donc qui parle d'un couple, d'une psychanalyse pour être plus précis. Psychanalyser quelqu'un qui parle parfois dans une autre langue, alors que l'on sait très bien, même ceux qui n'y croient pas, la psychanalyse savent que les mots ont un pouvoir considérable dans ce rapport qui s'instaure entre l'analyste et son patient. Alors, est-ce que c'est possible de psychanalyser quelqu'un qui ne parle pas exactement la même langue que vous?
Qui ne parle pas exactement la même langue, oui, qui ne parle pas du tout la même langue, non. Évidemment.
Dans le cas de Nureyev, il s'exprime en français, mais il a besoin du russe.
Ça a été un double pari. En effet, un psychanalyste qui analyse quelqu'un qui parle très mal le français peut quand même saisir quelque chose de ce qu'on appelle, nous, les signifiants fondamentaux, c'est-à-dire quelque chose qui va nous aider à faire avancer la cure. Mais, enfin, il faut quand même une bonne maîtrise de la langue française. C'est vrai qu'on pourra peut-être pas jouer aussi subtilement qu'avec quelqu'un qui parle parfaitement la langue et sur lequel on pourra intervenir à propos de double sens de mots, tout, c'est un peu plus compliqué.
Ça crée du suspense.
Donc le double challenge, c'était le psychanalyste qui doit analyser quelqu'un qui ne parle pas exactement la langue, et d'autre part, l'écrivain qui se demande comment faire parler Rudolf Nureyev dans un roman sans que ce soit ridicule et que ce soit une sorte de charabia tout le long du roman. Donc ça a été un des paris dont j'espère m'être tiré avec élégance, dit l'auteur pour se faire plaisir à lui-même, mais c'était une difficulté. Mais ça me permet aussi, tiens, de glisser quelque chose à propos de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'envahissement, de l'anglais dans notre langue et du destin de la langue française dans le monde, n'oublions pas quand même, et je le rappelle dans le livre, que le vocabulaire de la danse reste en français dans toutes les langues du monde. C'est en Russie, en Chine, en Italie, partout, on dit grand jeté, pirouette, bref, au moins, voilà.
On a nos petites spécialisations. Il y a une autre difficulté qui crée par la même occasion du suspense dans votre roman, Philippe Grimpère, c'est qu'il s'agit de psychanalyser quelqu'un de célèbre, je dirais même de très très célèbre, dont la vie est étalée dans les livres, dans les journaux, et quelqu'un de célèbre, ça crée, à ce point en tout cas, ça crée forcément de la fascination. Alors, peut-on psychanalyser quelqu'un de célèbre dont on sait plus de choses, sur qui l'on sait plus de choses que sur le commun des mortels, et qui en plus vous fascine?
Alors peut-être, la question de la fascination est très présente dans le livre, c'est même quasiment le sujet du livre, c'est la fascination mutuelle, et le Tristan Feller en question, le psychanalyste du roman, qui n'avait évidemment rien à voir avec moi, on est bien d'accord, a eu une enfance pendant laquelle il était fasciné par les célébrités. Il courait dans les spectacles à la sortie des artistes, faire signer des autographes. Donc tout à coup, il voit revenir en lui ce qu'il croyait avoir analysé et mis à bonne distance. C'est tout à coup la fascination pour une absolue célébrité, une vraie star, une star authentique, pur jus, qui est Rudolf Nureyev. Et évidemment, ça pose une question. Mais la question de savoir ce qu'on sait en effet, Rudolf Nureyev, on sait quelques éléments de sa vie. Mais ce qui importait au Tristan Feller en question dans le roman, c'est de lui demander de les raconter de nouveau, de façon à ce que ce soit raconté comme si c'était la première fois, et que le psychanalyste puisse entendre dans ce qui va être raconté autre chose que la légende.
C'est la différence que vous faites entre la vérité et la réalité.
C'est une grande différence qui est fondamentale de mon point de vue, la différence entre vérité et exactitude. En psychanalyse, on est à la recherche de la vérité, on n'est pas à la recherche de l'exactitude. D'une certaine façon, je crois que ça peut valoir aussi pour le romancier comme pour le psychanalyste. Le psychanalyste est à la recherche de la vérité du sujet, qui ne colle pas forcément avec l'exactitude. Exactitude des faits. C'est pas là-dessus qu'on se construit, pas sur l'exactitude, pas sur les dates, pas sur les faits, mais sur ce qu'on en a vécu véritablement dans notre vérité au fond de nous-mêmes. Je dirais que ça peut être une bonne définition de l'écrivain parce que on laisse l'exactitude aux historiens et aux biographes et on peut, nous, romanciers, s'occuper de la vérité. Ce qui est une nuance importante de mon point de vue.
Éric-Emmanuel Schmitt, je le disais tout à l'heure, dans l'élixir d'amour, le personnage principal, l'un des deux principaux, celui que vous incarnez est psychanalyste. C'est fou comme la psychanalyse imbibe le cinéma et la littérature américaine, particulièrement le cinéma américain. Les explications psychanalytiques sont permanentes. Autant ce n'est pas le cas en France. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'avoir affaire à un psychanalyste? Est-ce qu'il est doté de pouvoirs surnaturels pour nous, le psychanalyste?
La psychanalyse, c'est une grande fiction qui permet d'expliquer le réel. Enfin, est-ce que cette fiction est vraie ou pas? En tout cas, elle est efficace, mais l'efficacité n'a jamais été une preuve de vérité. Voilà.
Et l'inefficacité n'est pas la preuve non plus que ça ne marche pas.
Exactement, voilà. Donc, c'est une grande fiction explicative, donc c'est normal qu'elle génère des fictions. Parce qu'au fond, elle a enrichi notre vision du monde. Tout d'un coup, on a mis en place des systèmes de surmoi, censure, pulsion, etc.
Mais encore une fois, qui marche très fort aux États-Unis, beaucoup moins chez nous.
Beaucoup moins chez nous, mais c'est-à-dire que pour que il faut pas faire un roman freudien, il faut pouvoir rendre romanesque ce que nous offre la psychanalyse. Moi, je l'avais fait déjà au début de ma vie d'écrivain avec Le Visiteur, qui était une rencontre entre Sigmund Freud,
oui, bien sûr.
Et peut-être Dieu. Là, je me dis que le psychanalyste, c'est le seul qui possède l'élixir d'amour, c'est-à-dire le moyen de rendre l'autre amoureux. C'est ce que Philippe Grimbert évoquait en parlant du transfert, c'est-à-dire ce moment où le patient perd tout intérêt pour son traitement et ne se rend chez son psychanalyste que pour le séduire. Donc là, il y a la possibilité d'une manipulation. Bien sûr, on apprend à lutter contre le transfert. Et j'imagine que parfois, d'ailleurs, il doit y avoir beaucoup de vertus et beaucoup de volonté à lutter contre le transfert de la part du psychanalyste. Mais là, moi, j'imagine que mon héros est dans un jeu tellement pervers avec son ex-femme que lui va ne pas briser le transfert.
C'est quoi la morale de votre roman, Philippe Grimbert?
Y a-t-il une morale dans mon roman? C'est surtout ça la question. Mais
le message.
Je dirais. C'est quand même ce qui m'intéresse fondamentalement et ce que j'espère avoir montré, c'est à quel point, la psychanalyse est intéressante, à quel point même elle peut être comme ça un outil indispensable pour lutter contre la mort même. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est pas un livre sur la psychanalyse à proprement parler, ni, comme je le disais, ni une biographie de Nureyev. C'est un roman sur une rencontre singulière entre deux êtres singuliers. Ben, je dirais que la morale, c'est quand même que la rencontre est toujours possible. Je disais tout à l'heure qu'on était plus du côté de la communication que de la rencontre dans notre société aujourd'hui. Moi, je plaide pour la rencontre. Et je crois que là, il y a rencontre. C'est-à-dire que ce Rudolf Nureyev, monstre de narcissisme, monstre sacré, va quand même être en demande et va s'apercevoir que le besoin de parler, quand votre corps vous lâche, ce corps qui lui avait permis jusqu'à maintenant de tout dire, eh bien, il va falloir qu'il ait recours à la langue, à l'expression verbale de sa souffrance, puisque son corps ne lui permet plus de l'exprimer. Et c'est auprès d'un psychanalyste qu'il va lui demander ce secours.
Rudik, l'autre Nureyev, le nouveau roman de Philippe Grimbert, vient de paraître aux éditions Plon. On se retrouve juste après les infos.
Social Club, Frédéric Taddeï.
Ce soir, les membres du Social Club sont Hervé Bourges, il a été le patron de TF1 et de France Télévisions à un moment charnière dans l'histoire de la télévision française. Il le raconte dans le livre 50 ans de télévision qui vient de sortir chez Le Passeur Éditeur. Karen Brunon, elle est violoniste et maintenant elle est chanteuse. Son premier disque s'intitule La fille idéale. Philippe Grimbert, pour son roman sur les dernières années du célèbre danseur Rudolf Nureyev, ça s'appelle Rudik. L'autre Nureyev, et c'est paru chez Plon. Cécilia Duterre, pour ses conseils de séduction à l'usage des hommes de mauvaise volonté, c'est paru aux éditions du Rocher. Et Éric Emmanuel Schmitt, qui monte cette fois sur scène en tant qu'acteur dans sa pièce L'élixir d'amour avec Marie-Claude Pietragala. C'est au théâtre Rive Gauche pour 40 représentations exceptionnelles. Le style des années 2000 se dessine également en creux par ce qui est en train de disparaître, ce que l'on ne fait plus. Alors qu'est-ce qui est en train de disparaître à votre avis, Éric Emmanuel Schmitt ?
Eh ben, la présence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un développement de l'indifférence. Proust disait que l'indifférence, c'est le pire des maux. C'est la pire violence qu'on peut faire à l'autre. Et effectivement, maintenant, on voit des gens à table qui sont chacun dans leur SMS, dans leurs emails, pareil en famille, etc., etc. Et donc, voilà.
Je rappelle que votre pièce met en scène deux personnages qui s'envoient des emails.
Oui, mais c'est parce qu'ils sont à 6000 kilomètres. Et on est tous les deux présents sur scène, sans avoir le droit de se regarder, sauf à la fin. Mais du coup, on développe une sensorialité. Je sens ma partenaire. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas plus grosse grossièreté que d'être en face de quelqu'un et de ne pas être en face de quelqu'un, d'avoir l'esprit occupé par autre chose. Et alors ça, c'est une muflerie quand même qui se développe de plus en plus.
Mais peut-être que pour nous, qui sommes des gens du XXe siècle, c'est une muflerie. Ceux du XXIe trouveront ça, c'est simplement une partie de leur ubiquité. Allez savoir, on va peut-être en faire quelque chose.
Non, je pense une forme de relâchement, de facilité. Et d'égocentrisme voilà, condamnable.
Karine Brunon, qu'est-ce qu'on ne fait plus pour vous ?
Alors moi, ça serait plutôt positif. C'est, je trouve qu'on est plus monotâche, en fait. On est obligé de savoir faire plein de choses.
Voilà, c'est ce que je disais. On parlait avec ses parents et en même temps, on parlait avec ses copains.
Oui, mais moi, je vois le côté, le verre à moitié plein. Non, mais vous étiez écrivain, vous êtes aussi comédien. Quand on est musicien, l'interprète pur a disparu, je pense. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être compositeur, auteur, réalisateur.
C'est la fin des spécialisations qui dataient de l'âge industriel, au fond.
Oui, en tous les cas.
Maintenant, c'est la multiplication des tâches sur la même personne.
Mais aussi, en tous les cas, dans la création, dans la musique, c'est aussi, on a besoin que les gens racontent quelque chose, que ça vienne d'eux, que ça vienne pas juste être un interprète de quelque chose, mais d'en être l'auteur, en tous les cas d'en inspirer plus de choses.
Hervé Bourges, on va longuement parler tout à l'heure de la révolution que vous avez vécue à la télévision dans les années 80, particulier 90 également. Mais est-ce qu'il y a depuis le début des années 2000 un style de la télévision des années 2000 ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne fait plus et...
D'abord, je dirais que ce qu'il y a de positif, c'est qu'on va beaucoup plus vite et qu'on fait beaucoup plus de choses. Et à contrario, l'émotion l'emporte sur la réflexion. Et un fait n'est plus jamais situé par rapport à l'histoire et par rapport à la perspective, mais traité dans l'immédiateté. Et ça, c'est grave quand on voit la situation mondiale d'aujourd'hui. Pour ce qui concerne la télévision, moi, je suis arrivé à un moment où, effectivement, cette télévision bougeait énormément, puisque jusqu'en 82, jusqu'au moment où il y a eu loi qui permettait de la création d'un organisme de régulation et que ce n'était plus le ministre de l'information qui était le patron des chaînes de télévision, il y a eu une avancée considérable.
Mais ne la racontez pas maintenant, on va y passer un long moment après.
Bon, mais il y a ça, il y a une révolution considérable qui est intervenue et qui aujourd'hui va encore plus loin avec l'arrivée du numérique et qui va obliger les télévisions à essayer de pouvoir contrôler tout cela pour que les téléspectateurs ne fuient pas, n'aillent pas ailleurs. Il faut savoir qu'il ne suffit pas de mettre des programmes à la télévision pour que les gens la regardent, on le sait bien. Et c'est quand même un vrai problème aujourd'hui. Alors, pour ce qui se disait tout à l'heure, j'étais moi très intéressé parce que j'ai l'impression d'apprendre beaucoup plus de choses que moi. Je ne peux dire de choses intéressantes dans la mesure où de toute ma vie, je n'ai pris ni un tranquillisant ni un somnifère et je n'ai jamais vu un psy. Et là, je n'entends parler que de choses, de gens qui sont analysés. Ça m'intéresserait d'ailleurs quand je vois à la télévision que certains acteurs puissent être analysés. J'aimerais par exemple que Depardieu, Adjani, qui sont pour moi des monstres sacrés comme comédiens et pour qui j'ai beaucoup d'estime, d'amitié, que j'ai fréquenté, mais qui sont des personnages hors pair, je serais très intéressé de savoir comment ils sont traités par leur psy s'ils en ont un.
Il faudrait même le montrer en direct à la télévision.
Bien sûr, on pourrait dire la même chose en politique, hein, prendre Sarkozy d'un côté ou Hollande qui sont contraires de l'autre, ce serait très intéressant de savoir ce qui pourrait se passer.
Mais la télé-réalité s'est pas encore emparée des
alors,
vivants
de la psychanalyse. Moi je suis tout à fait opposé à la télé-réalité, je suis pas du tout contre la télévision de la réalité, bien évidemment, au contraire, il faut être proche de la réalité et il faut pas la fuir, même si la fiction permet de créer des œuvres qui interprètent la réalité d'une certaine manière, mais la télé-réalité c'est permettre à mettre la misère humaine au premier plan à la télévision. Alors peut-être que les psys expliqueront ça autrement, disant que c'est peut-être très bon pour les gens qui y vont parce que ils ont l'impression d'exister. Moi, je trouve que, au contraire, on exploite la misère humaine. Et cette télé-réalité est aujourd'hui dans le monde quelque chose de considérable, puisque même en France, certains patrons de chaîne, je pense à l'époque à mon ami Lelay, qui a dirigé très bien TF1, chaîne privatisée, avait dit jamais nous ne ferons ça au moment où étaient lancées les premières télé-réalités sur une chaîne concurrente. Et puis TF1 s'y est mis comme tout le monde. Et puis je dirais que même le service public, qui masque ça sous des atours plus convenables, en fait aussi. Et ça, il faut faire quand même très attention, parce qu'il y a des limites en la matière. Faire rêver des gens d'une certaine manière, je ne suis pas persuadé que ça puisse rendre service à la société. Voilà.
Cécilia Duterre, qu'est-ce qu'on ne fait plus pour vous ?
Moi, je parlerai de l'approche amoureuse, donc toujours, je reste dans mon sujet. Je pense qu'on a perdu une forme de légèreté, de spontanéité, et surtout, sans doute, une forme de bienveillance. Parce que finalement, dans une approche, encore une fois, ancestrale, on va dire, du rapport amoureux, ou de la drague physique, ben, finalement, on pardonnait beaucoup de choses, parce qu'un sourire, un petit clin d'œil, peuvent faire pardonner une maladresse de langage. Beaucoup moins par mail, beaucoup moins par SMS. Alors là, la faute de syntaxe, la faute d'orthographe, il faut faire du tri puisque, effectivement, le virtuel nous impose la masse, l'exponentialité. Et donc, voilà. Donc, on a perdu, je pense, beaucoup de jovialité dans le rapport amoureux.
Karine Bruno, on va écouter tout de suite une première chanson tirée de votre album. C'est justement la chanson qui donne son titre à l'album, La fille idéale. Vous voulez nous en dire un mot avant qu'on l'écoute ?
Ah, la fille idéale. Alors, pour le titre de l'album, en tous les cas, la fille idéale, pour moi, c'est la... Évidemment, elle n'est pas parfaite. C'est ce qui fait... c'est toutes ces petites fractures, ces douleurs, ces maux. Voilà. Je pense que la fille idéale, c'est chacune de nous qui trouve son idéal masculin ou pas. Mais en tous les cas, voilà. Elle est fragile, elle est discrète, elle est...
Voilà. Elle est idéale.
Elle est idéale.
Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Karine Brunon, vous êtes violoniste. La fille idéale est votre premier album en tant que chanteuse. Vous l'avez réalisé avec Benjamin Biolay, qui est un ami d'enfance. Ça date du Conservatoire de Lyon, c'est ça? Vous appreniez le violon et lui apprenait le tuba.
Exactement.
Je lui ai souvent posé cette question. D'ailleurs, en quoi le tuba l'avait aidé à faire la carrière de compositeur, de producteur?
Le tuba, c'est quand même...
Voilà, c'est pas facile. Il était bon tubiste?
Oui, il était bon musicien. Il était très vite, il a joué du trombone aussi. Il a fait du violon. Et c'est vraiment un grand artiste.
Le violon, c'est toujours ce qui semble le plus dur. Parce qu'il est très dur de sortir. Autant c'est facile de sortir d'un piano.
Au niveau de l'apprentissage, en tous les cas,
le violon, c'est
vraiment
terrible.
Ce qu'il y a de plus dur, oui.
C'est ce qu'il y a de plus ingrat.
Oui, mais ouais, pour les autres.
Pourquoi pas seulement, pas aussi pour la petite fille qui s'acharne
à tirer.
Justement, alors
le violon, en général, on commence très très petit parce que ça demande, c'est comme le sport, la danse, une souplesse, un travail quotidien. Donc quand on est tout petit, je pense qu'on se rend moins compte de l'enfer qu'on est en train de faire vivre aux autres. Mais oui, en tous les cas, c'est un instrument très difficile, oui, ça c'est sûr.
Ça s'entend quand vous chantez que vous êtes violoniste.
Ah bon,
alors ça, j'allais poser la question. Vous êtes merveilleux, Éric Emmanuel.
Mais non, parce que c'est constamment timbré, l'aigu comme le grave, et puis en même temps, on entend presque l'archet sur la corde parce qu'elle pousse pas du tout la voix, et puis il y a un lié entre les notes. J'écoutais en me disant, mais oui. Bravo.
C'est la chanson d'une violoniste. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit?
J'aurais jamais pu l'analyser comme ça, bien sûr, mais ça me semble peut-être évident que, en tous les cas, que je chante comme je joue du violon. C'est, en tous les cas, je fais de la musique. Moi, j'ai jamais revendiqué le violon comme étant mon instrument. Genre, je suis une violoniste. En tous les cas, je suis une musicienne. Ça a été mon moyen de m'exprimer. J'ai commencé, j'avais 5 ans, donc.
Vous avez eu le premier prix du Conservatoire de Paris.
Oui.
Hein, après le Conservatoire
de Lyon,
il y a eu le Conservatoire de Paris, Karine Brunon. Vous êtes devenue premier violon, hein, c'est ce qu'on appelle. C'est
oui,
un emploi, le premier violon.
C'est un emploi, oui, c'est un terme. Ça veut dire quelque chose et pas dire grand-chose. C'est-à-dire que dans un orchestre, il y a plusieurs premiers violons, puisque les partitions sont divisées. Donc il y a les premiers, les deuxièmes, les seconds violons, les altos, les violoncelles, etc. Quand on est violon solo, c'est le premier violon de l'orchestre. Voilà, il y a des termes comme ça très, très, très précis.
Vous étiez premier violon ou violon solo,
voilà, on va dire. J'ai été les deux.
Premier violon avec Michel Legrand à Carnegie Hall en 96. En fait, vous allez commencer une carrière de violoniste pour tous les grands de la chanson française, que ce soit Charles Aznavour, Laurent Voulzy, Étienne Dao, Keren Ahn, Vanessa Paradis, tous vont. C'est ça qui vous a donné à un moment envie de chanter, vous aussi?
Oui, bien sûr. J'ai toujours aimé la chanson. Après, alors c'est venu petit à petit déjà de côtoyer tous ces grands. Au bout d'un moment, ça donne envie. Ça n'a jamais été une frustration de ne pas être chanteuse, mais en tous les cas, j'apprenais, j'écoutais, ça me fascinait vraiment.
Et vous avez été aussi la violoniste de Gad Elmaleh. Est-ce que ça vous a donné envie de faire des sketchs?
Non, j'aime bien l'humour. oui, ça a été une petite parenthèse pour un sketch. C'était très amusant. Oui, il est très drôle. En tous les cas, la chanson, c'est venu un peu plus tard. Donc, toujours avec mon partenaire Benjamin Biolay, qui m'a appelé un jour pour faire un groupe.
Ça s'appelait Shelby
avec Keren Ahn.
Avant qu'ils deviennent célèbres tous les deux grâce à l'album qu'ils ont réalisé pour Henri Salvador. Jardin d'hiver.
Un an avant, je crois, quelque chose comme ça. Donc Keren Ahn est resté très proche. Moi, on fait un duo sur l'album qui s'appelle Le lieu du crime. Et voilà, c'est à leur côté, en tous les cas, que j'ai commencé à.
C'est aussi avec Calogero qui vous a fait chanter.
Oui,
également,
mais ça, c'est beaucoup plus tard. Calogero, c'est Circus. C'était il y a deux ans, trois ans. On a eu un groupe, effectivement. Mais Shelby, c'est bien avant. Et j'ai commencé d'abord à écrire. Encore une fois, j'avais besoin de vivre les choses. Je voulais pas juste demander une chanson à quelqu'un et l'interpréter. Donc j'ai commencé à écrire des chansons. Benjamin m'a dit, prends ton temps, écris, le jour où tu as besoin, je serai là.
Vous avez composé d'ailleurs la plupart des chansons qui sont là, donc vous en avez écrit la musique. Les paroles, en revanche, vous les avez laissées la plupart du temps, soit à Benjamin Biolay, soit à Élodie Frégé.
C'est quelque chose que j'ai pas su passer le cap de l'écriture. Je trouve ça fascinant de savoir écrire. La langue française, j'adore les mots, j'adore les textes. J'ai confié ça à Benjamin Biolay, Élodie Frégé, qui écrit magnifiquement bien, d'une féminité et d'une sensualité. J'avais vraiment envie de ça dans cet album, de parler de ce de la femme, de la fragilité.
Mais justement, alors, c'est, les thèmes, je dirais presque, sont les thèmes que toutes les chanteuses abordent au cours de leur carrière. Mmh. On pourrait presque dire c'est une compilation. Et Karen Brunon, vous y parlez d'amour, de séparation, de secret. Il est question de
mais
peau,
quoi d'autre ?
De beauté, des saisons, de la mer, du ciel, du soleil, des étoiles, des voyages. Et j'allais dire, c'est dur à éviter, non ? Vous n'êtes pas dit au moment où vous
voulez. Mais oui, mais alors moi, pour le coup, j'aime pas parler du quotidien et de. Vrai, ça m'inspire pas, quoi. J'ai pas envie de parler dans mes chansons de choses de quotidienne. Je parle pas d'actualité. On peut faire des belles chansons sur l'actualité, mais en tous les cas, du quotidien, de ce que je fais en me levant le matin, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est les sentiments, c'est ce que j'ai vécu, ce qui m'a fait souffrir, les films que j'ai vus, les sensations que ça m'a donné. J'ai pas envie de raconter une histoire pour une histoire. J'ai envie de raconter l'émotion qu'elle m'a donnée.
Alors, les séparations, ça c'est le grand thème oui. des chanteuses en général et de Karen Brunon en particulier. Oui. Les séparations. Toutes les chanteuses ont-elles été si souvent quittées qu'elles nous parlent si souvent de séparation ?
Est-ce que c'est véritablement. Les femmes en général.
Moi je connais des femmes qui n'ont jamais été quittées, par exemple. Or, je suis sûr que si demain elles se mettaient à chanter, elles nous raconteraient qu'elles ont été quittées.
Non, vous
voyez ? Alors, je me demande, est-ce que c'est l'expérience qui dicte ça ou est-ce que c'est le passage obligé.
Non,
je suis femme, je chante, il faut que je chante qu'on m'a quitté.
Non, je pense que c'est pas du tout le passage obligé. On parle de ce qu'on a envie de parler, de ce qu'on a envie de raconter. J'ai beaucoup été quittée, j'ai aussi quitté, mais en tous les cas, mais peut-être que je me complaisais aussi là-dedans. C'est...
Ou en tout cas, vous complaisez peut-être à le chanter aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose d'agréable
voilà,
à chanter cela.
Et cette nostalgie que ça crée, enfin voilà, c'est pour moi très complaisant dans l'écriture en tous les cas, dans l'inspiration. Donc voilà, donc oui, j'aime bien l'idée de se laisser à pleurer avec des grosses chaussettes dans un canapé en regardant
et les garçons aiment ça aussi, ils aiment bien entendre
mais
des
oui.
chansons de femmes qui disent qu'elles
fragile,
ont été quittées.
Fragile, en tous
hein.
les cas.
Éric Emmanuel Schmitt.
Mais est-ce que de toute façon, le chant, c'est pas une sophistication du cri ? Donc de toute façon, est-ce qu'on n'en retourne pas à, comme ça à des émotions fondamentales, à des cris
à nos souffrances.
Oui, bah oui. À des larmes, à des rires, pourquoi pas aussi. Mais bien sûr, en tous
qu'est-ce
les cas,
que ça fait, Karen Brunon, quand vous entrez dans un magasin de disques aujourd'hui et que vous voyez un disque avec votre photo et écrit « La fille idéale ». C'est du rapporté, non, quand même
ouais, c'est beaucoup d'émotions. Je suis fière.
Oui, ben je comprends parce qu'il y a écrit la fille idéale.
Mais moi, quand je
vois le disque, il n'y a pas l'explication que vous m'avez donnée. Il y a écrit Karen Brunon, la fille idéale.
Bah, je trouve ça très beau comme titre et puis c'est une bonne façon de faire parler.
J'ai beaucoup aimé. Mais je voulais quand même poser une question. Comment vous avez fait ? Bon, il y a Biolay, etc. Mais avoir envie, quand vous étiez premier violon, que vous aimez le violon qui traduit une musique sublime, sûrement, passer à la chanson. J'ai joué hier soir, magnifique, truc de philharmonique avec Lang Lang sur Arte, et je ne vois pas Lang Lang chanter.
Allez savoir,
oui.
Du rock,
mais pour moi, non, mais c'est pas un sacrilège.
Pas du tout, c'est une question.
Oui, alors, moi j'ai toujours aimé la chanson, et puis. Oui. Je suis violoniste classique, évidemment, mais c'est vrai que j'ai pris un chemin. J'ai très peu, finalement, joué
dans ces grands orchestres.
Moi, très, très jeune, donc j'ai plutôt joué avec Michel Legrand. J'ai fait beaucoup, beaucoup de studios de musique de film. J'ai été sur scène tout le temps pour accompagner des chanteurs. Donc, c'est vrai que j'ai choisi cette voie-là. J'ai jamais passé de concours d'orchestre pour entrer dans un orchestre. Moi, à la sortie du conservatoire, je rêvais que d'une chose, c'était de scènes avec de chansons et de films.
Alors, il y a une autre chanson que je voudrais qu'on écoute tirée de cet album, Karen Brunon. C'est une chanson que je trouve assez engagée, revendicatrice même. Freud se demandait, paraît-il, à la fin de sa vie, ce que veulent les femmes. Ben, je dirais que c'est votre réponse à vous. La réponse, c'est rien. Mais en fait, ça en dit un peu plus que ça. Est-ce que je l'ai bien résumé ou est-ce que vous voulez...
Oui, c'est... J'adore.
Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Voilà, l'album de Karen Brunon s'intitule La fille idéale. Il est sorti dans les bacs, comme on dit. Cécilia Duterre, un commentaire?
Moi, je trouve ça magnifique. C'est vrai que c'est très, très féminin. Elle veut le grand tout de l'amour, ce rien.
Ça n'est pas exorbitant comme exigence.
C'est pas du tout exorbitant, bien sûr.
C'est Philippe Grimbert qui commentait.
J'aime beaucoup ce texte, et c'est vrai. Ça, demander de l'amour, demander du respect, ça n'est pas être une tigresse. Or, on aurait tendance à penser aujourd'hui qu'une féministe est quelqu'un d'enragé, alors que c'est juste quelqu'un d'engagé. Et puis je disais à Karen pendant le disque, dans ce rien, j'entendais une idole aussi de ma jeunesse, Françoise Hardy. Il y a quelque chose dans le mot rien, dans la façon de le dire. C'est que dans le reste, vous avez votre musique à vous, mais dans ce rien, il y a Françoise Hardy.
Éric-Emmanuel Schmitt.
Mais je pensais la même chose, que ce rien n'est pas rien. C'est-à-dire que comme
je pense qu'elle l'avait bien compris.
Voilà.
Non, mais en fait, c'est aussi de dire aux hommes. N'ayez pas peur.
Oui, c'est ça.
Il est
accompagné d'un souffle et d'un soupir assez sensuel et du coup, ce rien, c'est tout.
Passons Hervé Bourges à ses 50 ans de télévision. Vous avez été, je le disais, le président de TF1 à l'époque où la chaîne était encore publique, puis celui de France Télévisions, que vous avez créé d'ailleurs, France Télévisions en tant que groupe, c'est à partir de 1992.
Septembre.
Ces 50 ans de télévision racontés dans ce livre, c'est la télévision française de l'après-guerre jusqu'aux années 90, racontée par ceux qui l'ont inventée et développée. On y retrouve Pierre Bellemare, Alain Decaux, Igor Barrère, Pierre Tchernia, Patrick Poivre d'Arvor, Marcel Bluval, Georges Decaune, Jacqueline Joubert. Ces entretiens avaient été réalisés pour l'INA. C'est le cas du vôtre, Hervé Bourges. Vous avez donc vécu au premier plan la révolution des années 80 avec la multiplication des chaînes de radio et de télévision. Ce qui est amusant, c'est de se rendre compte que vous êtes arrivé dans cet univers, vous n'y aviez jamais travaillé. C'est Michel Cotta qui a pensé à vous appeler, d'abord pour devenir le patron de Radio France Internationale, puis ensuite pour devenir le patron de TF1, qui était encore une chaîne publique. Et au moment où vous arrivez, il y a quatre radios. Donc, il y a Europe 1, RTL, RMC et Radio France. Il y a trois chaînes de télévision publiques. Et vous dites, en fait, on est dans un paysage de régime à parti unique.
Oui, absolument. Absolument.
Mais à l'époque, vous en aviez cette conscience, parce qu'aujourd'hui, c'est amusant de le dire, rétrospectivement, comme quand on se dit, vous rendez compte, avant 1945, les femmes ne votaient pas. Ça nous paraît invraisemblable. Mais je me demande toujours si les hommes en étaient conscients. Alors,
Ils n'en étaient pas conscients. Demandez à Jacqueline Joubert. Quand elle voulait proposer quelque chose, on lui disait, mais t'es pas un homme. Hein, à la télévision. Oui, et ça, dans les années qui ne sont pas si anciennes que cela.
Ouais. Mais là, quand vous arrivez, vous vous dites, en fait, c'est pareil que dans un pays régime de parti unique.
Mais oui, parce que c'était quand même étonnant. Ma particularité, c'est que moi, je ne suis pas un enfant de la télévision ou de la radio. Je suis journaliste, comme vous le savez. J'ai exercé des responsabilités, mais j'ai aussi été quelqu'un qui s'est intéressé aux problèmes du monde. J'ai milité contre la guerre d'Algérie, par exemple. J'ai appartenu au cabinet d'Edmond Michelet, ancien déporté de Dachau, ancien résistant, et qui, au moment où on commençait à parler de paix en Algérie, où De Gaulle voulait arriver à ce stade-là. Et puis, tout à coup, Michel Cotta, que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas, venait d'être nommé président de Radio France et cherchait quelqu'un pour Radio France Internationale. Et il se trouve que plusieurs journalistes, on a donné les noms de la Couture, de Jean-Daniel, et puis Paul-Marie de la Gorce ont donné mon nom. Michel m'a appelé et j'ai donc pris la responsabilité de là. Et j'étais très étonné, je l'ai dit à Michel d'ailleurs, mais on est dans un pays qui est un pays démocratique, quand même, c'est pas un pays de parti unique, mais on avait quatre radios. On en a 1600 aujourd'hui. On avait quatre radios et tout le monde était très content d'avoir ces quatre radios. Il y avait trois chaînes de télévision et pendant longtemps il y a eu la chaîne unique comme je l'explique dans le livre. Et c'est quand même étonnant, c'était une espèce de contradiction. On donnait des leçons à tout le monde en disant il faut être démocrate et on s'apercevait que nos médias étaient complètement sous la coupe des politiques qui pendant longtemps s'en sont pas occupés. Quand il y a eu les débuts de la télévision, ça intéressait pas les politiques pour une raison très simple, c'est qu'il y avait peu de gens qui pouvaient regarder la télévision. Ça a été le règne des créateurs à l'époque. Ça a permis d'ailleurs des choses merveilleuses, mais réservées à peu de gens.
Mais dans les années 60, il y avait aussi le règne des créateurs dans la fiction, mais l'information était contrôlée.
Je voudrais d'ailleurs rendre ici hommage à quelqu'un pour lequel j'ai une très grande estime, qui est mort maintenant, et sa veuve vient de décéder très récemment. C'est Jean Darcy, qui était le grand créateur de la télévision française. Et c'est à lui que se réfèrent d'ailleurs tous ceux qui sont dans ce livre, de Tchernia à Badel jusqu'à Bellemare. Et j'ai été d'ailleurs d'ailleurs très heureux de pouvoir créer le prix Jean d'Arcy, vous savez, à TF1, chaîne publique, et puis en ce moment, ça continue sur France Télévisions, et chaque année, le président de l'époque, c'était le dernier, c'est Pierre Flimelin, me demande de venir remettre ce prix en présence de sa veuve, qui vient à peine de disparaître. Et lui a ouvert la télévision, et justement, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'était pas un homme de télévision non plus, il venait de l'armée, Jean d'Arcy. Et il a tout de suite compris ce que c'était. Il a donné sa chance aux réalisateurs, aux producteurs, et puis après est arrivé le règne, disons, de la multiplicité des programmes, et les politiques se sont intéressés à la télévision. Et puis, disons-le, à partir de 58, pendant toute la période de Gaulle, et après, quand il est revenu au pouvoir, la télévision était entre les mains de Gaulle. Il avait parfaitement compris que c'était important. Il disait ce que disent certains chefs d'État dans de pays autoritaires aujourd'hui, en Afrique et ailleurs. Au fond, la presse écrite, peu importe, elle peut dire ce qu'elle veut, ça s'adresse à peu de gens. Parce que les gens sont obligés d'acheter le journal et ça s'adresse à l'intelligentsia, tandis que la télévision, ça s'adresse à tous. Et donc, pour lui, c'était très important d'avoir le journal télévisé en main.
Hervé Bosch, pardon de vous interrompre, mais ce que vous dites sur le service public, parce que vous avez connu le service public, vous étiez le président de TF1 public, vous dites qu'il faut bien comprendre qu'un président ou un responsable de chaîne ne peut pas entrer en conflit avec son actionnaire, et son actionnaire, c'est l'État. Donc ce que vous dites, c'est toujours vrai aujourd'hui, même si les choses, j'imagine, ne se passent plus comme elles se passaient à l'époque.
Non, plus du tout. Si je le dis, c'est parce que aujourd'hui encore, le service public est alimenté par la redevance que gère l'État et par les subventions que l'État peut donner. La publicité a été en plus retirée par le président Sarkozy dans les programmes qui devaient démarrer en fin de journée en disant, vieux rêve des socialistes de l'époque, il faut que la télévision privée ait la publicité, que la télévision publique puisse ne pas être influencée par cette publicité, donc pas de course à l'audimat, avec cette hypocrisie constante chez les politiques, c'est qu'ils disent ça, et puis après, ils disent tout ça coûte beaucoup trop cher, alors il y a peu de téléspectateurs, donc on est obligé, ce que j'ai essayé de faire lorsque j'étais président de TF1 chaîne publique, et après, lorsque j'ai créé France Télévisions, France 2 et France 3, c'est d'essayer, parce que nous étions chaîne publique, de donner la primauté à la qualité des programmes, et en même temps, à ne pas laisser fuir l'audience, et à se battre pour avoir des téléspectateurs.
Mais c'est d'ailleurs parce que vous étiez le patron de TF1, chaîne populaire
de qualité, c'est comme ça que j'avais essayé de la définir et essayer d'obtenir.
Il en a été pris argument, on a dit on va privatiser cette chaîne-là, justement, puisqu'elle fonctionne déjà comme une chaîne privée.
C'est ça, c'est vrai, d'ailleurs, on m'a fait des reproches et qui sont peut-être justifiés. Moi, aujourd'hui, j'accepte bien évidemment toutes les critiques, elles sont très bienvenues, même a posteriori. C'est que je n'ai jamais voulu laisser filer le public, si vous voulez. Alors, on ne va pas le garder avec n'importe quoi. J'ai fait Cocorico Cowboy avec Colaro, qui est l'ancêtre
de... Vous avez fait Santa Barbara,
c'est ça.
Patrick Sabatier, c'est vous.
Santa Barbara, le Dallas, etc. Certains programmes américains qui n'étaient pas les plus mauvais, Dallas et Santa Barbara, par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai fait ça pour aider le journal télévisé, si vous voulez, permettre que en avant-programme, il y ait des téléspectateurs qui puissent regarder le journal télévisé et qui ne fuient pas ailleurs. Alors, il y a eu, disons, une certaine ouverture qui s'est faite, et la plus grande ouverture, ça a été la création quand même du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et avant la haute autorité de la communication audiovisuelle, qui était présidée par Michel Cotta, et qui quand même enfonce un clou entre les téléspectateurs et les responsables professionnels des radios et des télévisions, et entre eux, surtout, la classe politique. Mais dans le même temps, et c'est vrai encore aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'actionnaire principal, c'est l'État, et que si l'actionnaire principal est contre le président qui dirige, il faut qu'il parte. Ça a été mon cas. Lorsqu'il y a une chambre bleue, lorsque je présidais France Télévisions, Monsieur Balladur, qui était Premier ministre, m'a dit, écoutez, cher ami, vous avez très bien réussi, je vous félicite, mais ma base voudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre, parce que vous êtes considéré comme quelqu'un de proche de Mitterrand, alors que jamais Mitterrand ne m'a demandé quoi que ce soit.
Vous étiez un
tiers-mondiste, parce que j'avais été en Algérie après l'indépendance de 1962 à 1967, essayer de réconcilier la France et l'Algérie, vaste programme.
Les politiques, vous dites, Hervé Bosch, ne comprennent pas la télé et ne la comprendront jamais. Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi vous dites ça.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h. Frédéric Taddeï.
Nous sommes donc avec Hervé Bourges, l'ancien président de TF1 à l'époque chaîne publique, puis de France Télévisions au moment de sa création, et puis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous avez occupé tous les postes en première ligne.
Oui, alors que je ne venais pas de ce milieu.
De ce moment charnière de la télévision française où on passe de ce que vous avez appelé le paysage de régime à parti unique à tout à coup la multiplication d'abord des radios libres, puis des chaînes privées, puis des organismes comme la Haute Autorité, le CSA, on veut lui donner toutes sortes de noms. Revenons à ces politiques. Vous dites que François Mitterrand, président de la République, qui est l'artisan de cette ouverture, et c'est à ce moment-là que vous arrivez, Hervé Bourges, croyait que la télévision faisait une élection, par exemple. C'est en cela que, d'après vous, les politiques ne comprennent rien à la télévision, parce qu'ils lui accordent trop de pouvoir.
Oui, sauf que Mitterrand était particulièrement intelligent, qu'il a compris assez vite que c'était pas le cas. Oui, il s'imaginait que c'était la télévision qui faisait l'élection et qu'il suffisait de paraître à la télévision
pour que
les gens votent pour vous.
C'est pour ça qu'il voulait créer des chaînes de télévision qui pouvaient être des chaînes de télévision de gauche, par exemple.
Oui, mais bon, il l'a pas fait. C'est la raison pour laquelle il a fait venir Berlusconi, ce qui a été une erreur, qu'il a créé disons d'autres chaînes. Mais il avait parfaitement compris que ça c'était pas ça. La télévision, c'est les téléspectateurs, et on ne pouvait pas avoir ce qui a été le cas en 1982, une loi sur l'audiovisuel qui crée un organisme de régulation comme la Haute Autorité présidée par Michel Cotta, puis ensuite le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et vouloir mettre la main sur la télévision. Mais vous n'empêcherez pas les politiques de toujours s'imaginer que passant à la télévision...
Vous rappelez que Laurent Fabius, à l'époque Premier ministre, voulait faire une émission qui s'appelait Parlons France, où il serait intervenu à la télévision régulièrement pour nous dire... Et il voulait que ce soit dans le journal de 20h,
C'est
par exemple.
Oui, il l'avait demandé à Georges Filliou, qui était un ami, un très bon journaliste, un ancien de cette maison, comme vous le savez.
Et le ministre, à l'époque.
Oui, qui était ministre de la Communication, il souhaitait ça. J'ai dit c'était pas possible, on pouvait pas dire qu'on libérait la télévision et permettre à un Premier ministre ou à un homme politique quelconque de venir régulièrement s'inviter au journal télévisé.
Mais il a compris, Fabius, j'imagine.
Je ne sais pas s'il l'a compris, mais ça s'est pas fait. Mais je pense pas que les politiques essaient le plus souvent possible à la télévision sans se rendre compte qu'il suffit pas de passer à la télévision pour être bon aujourd'hui. On s'en rend bien compte, ça peut même être catastrophique pour certains d'entre eux, d'autant plus qu'il y a multiplication des chaînes. Alors, je crois qu'il y a quand même une grande liberté des chaînes de télévision aujourd'hui. Qu'elles soient conformistes, c'est autre chose. Que la langue française ne soit pas respectée, que tout le monde traite des mêmes sujets de la même manière, dans le même temps, c'est aussi quelque chose que nous voyons bien. Mais dans le même temps, vous avez quand même, dans la multiplication des chaînes, la possibilité de choisir les chaînes que vous voulez. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir une information qui est quand même une information de qualité. Je dirais que même si les hommes politiques veulent s'inviter, ils ont beaucoup plus de mal, s'ils ne sont pas bons, à pouvoir être entendus.
Vous avez donc fait de TF1 chaîne publique, une chaîne populaire de qualité, comme vous dites. Et c'est le moment où TF1 est repassé devant Antenne 2, à l'époque dirigée par Pierre Desgros. Donc vous aviez créé La Roue de la Fortune, c'était l'époque de Stéphane Collaro, de Patrick Sabatier. Vous avez des remords, en tout cas des regrets, Hervé Bourges. Vous parlez de la petite Colombienne qui mourait en direct devant toutes ces caméras de télévision, ça a frappé tout le monde. C'est un des symboles des années 80. Elle est morte en direct,
Elle est morte en direct, sur votre chaîne. Et pourquoi est-ce que c'est passé? D'abord, c'est l'immédiateté, la rapidité. Moi, on me prévient au moment où ça passait à l'antenne. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas dire stopper, etc. Et je demandais ce que faisaient les autres. Les autres faisaient la même chose. Bêtement, j'ai dit, laissons faire. Je le regrette. Parce que, voir mourir une enfant sous les yeux voyeuristes de tout un monde, c'est pas bien. Bon, la même chose pour le stade des Ailes, vous rappelez.
Le drame du Ezel avec les supporters italiens écrasés contre les grilles.
Voilà, le match a continué, alors qu'il y avait eu des dizaines de morts. On a dit, d'abord, les autorités du football ont dit le match continue et que la télévision continue de diffuser. Moi, je regrette de ne pas avoir, même si d'autres auraient fait le contraire, de ne pas avoir arrêté. On a toujours des regrets, vous savez.
Mais c'était le moment où on apprenait aussi, parce qu'au fond, cette télévision omniprésente, en direct, c'était aussi un peu ses débuts. La concurrence aussi, on en découvrait les lois.
La concurrence est venue très vite. D'abord, la télévision a acquis une certaine liberté depuis les lois sur l'audiovisuel de 1981-82, il faut bien le dire. Auparavant, c'était M. Perfit qui était le patron de chaîne. D'ailleurs, on se réunissait, le comité de rédaction de télévision se réunissait dans son bureau. Alain Berfitte, ministre de la... Et ça paraissait normal à tout le monde. Bon, ça a changé, qu'il n'y ait pas des interventions aujourd'hui, bah bien sûr que
mais
si.
Là, mais là, on apprenait là une morale, au fond. On fabriquait sa propre morale à
tout
ce moment-là.
Et puis on essayait de satisfaire les téléspectateurs sans faire trop de démagogie, en faisant attention à ne pas être une télévision attrape-tout, mais à savoir leur offrir autre chose. C'est là que je me suis rendu compte, disons, de l'importance de la télévision. Vous savez, quand André Rousselet, qui connaissait strictement rien à la télévision, mais eu l'idée géniale de créer Canal+, ils ont cru qu'ils allaient créer une télévision pour l'élite, comme ils disaient. Et puis ils se sont aperçus que les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens mais étaient prêts à donner de l'argent pour aller assister à des matchs de football auxquels ils n'auraient pas pu aller, aller au cinéma où ils n'allaient pas, aller à des pièces de théâtre où ils n'allaient pas, participer à des débats où ils n'allaient pas d'habitude. Et ça a été un public populaire qui a regardé Canal+ et qui s'est abonné à Canal+. Et la télévision, c'est pas facile. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de pragmatique. Je ne me suis jamais laissé imposer les choses. Je me suis aperçu que pour faire une télévision populaire et de qualité, il fallait d'abord pouvoir s'adresser à un maximum de gens qui étaient des gens très différents, depuis ceux qui critiquaient la télévision mais ne la regardaient jamais, depuis ceux qui voulaient y passer tout le temps sans jamais la voir, jusqu'à ceux qui ne regardaient que ça, pour qui c'était le théâtre, le cinéma et les seuls loisirs après le travail. Essayer donc de leur offrir quelque chose qui ne les fasse pas fuir et qui en même temps leur apporte autre chose. C'est pour ça que moi j'étais contre, si vous voulez, des émissions à caractère trop littéraire et trop intellectuel qui fasse fuir les téléspectateurs. Pivot vous dira d'ailleurs, remarquable émission de Bernard Pivot, que c'est pas à 20h30 qu'il pouvait avoir son public, c'était un peu plus tard, parce qu'à 20h30 c'était une télévision attrape-tout avec les chaînes concurrentes et que
c'est aussi à cette époque-là que Bernard Pivot, donc qui est à 21h30 sur Antenne 2 à l'époque, commence à voir son audience s'effriter parce qu'il y a de la concurrence. Est-ce que vous vous souvenez, Eric-Emmanuel Schmitt, est-ce que vous vous souvenez de cette époque?
Tout à coup, il y a
TF1 qui va être privatisé, il y a la chaîne, vous savez, la V5, il y a Canal+.
Même nous, en tant qu'écrivains, ça a changé nos vies. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé au théâtre, Bernard Pivot m'invitait à chaque rentrée pour parler d'une nouvelle pièce.
Ça, c'était dans Bouillon de Culture.
Oui, c'était dans Bouillon de Culture. Je faisais cette émission et après, j'en faisais plus une seule. Je partais en vacances. Aujourd'hui, on est obligé de courir d'un média à un autre. Parfois
l'audience s'est fragmentée.
Aux médias Internet. Mais moi, j'aurais une question à poser à Hervé Bourges. Qu'est-ce qu'a apporté pour vous en termes de culture la multiplication des chaînes et qu'est-ce que ça a enlevé?
On va le laisser réfléchir un tout petit peu et on lui donne la possibilité de répondre juste après ça.
20h, 22h, Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Eric-Emmanuel Schmitt, Karen Brunon, Philippe Grimbert, Cécilia Duterre et Hervé Bourges pour ses 50 ans de télévision, un livre paru aux éditions Le Passeur, 50 ans de télévision raconté par Pierre Belmar, Hervé Bourges, Alain Decaux, Igor Barrère, Pierre Tchernia ou Patrick Poivre d'Arvor. Alors juste avant, il y a quelques instants, Eric-Emmanuel Schmitt vous posait une question. Vous voulez bien nous la répéter, Eric-Emmanuel?
Oui, je me demandais ce que la multiplication des chaînes avait apporté en termes culturels et retiré en termes culturels. Parce que vous qui êtes un fin observateur de tout ça...
Alors retirer une certaine uniformité, hein, mais parce que les chaînes ne se distinguent pas suffisamment les unes des autres. Regardez les journaux télévisés, c'est toujours la même chose, les mêmes sujets, les mêmes à 20h et à 20h15, etc. Ça, c'est lié à l'actualité et je dirais au dynamisme et à la dictature de l'actualité qui fait que si vous ne parlez pas d'un sujet qui paraît important, ben, vous faites engueuler.
Mais, Hervé Bourges, là, vous parlez de l'actualité, lui, il pose la question sur la culture. Vous avez été, vous l'avez dit il y a quelques instants d'ailleurs, vous avez reproché à l'ancienne ORTF, l'esprit ORTF, son élitisme. Vous pensiez que parfois, quand il faisait Échille à 20h30, ben, même si les gens regardaient, peut-être qu'ils souffraient.
Ou la couette.
Voilà. passe des sangs la couette. Donc vous avez combattu cet élitisme. Oui. Est-ce que aujourd'hui on n'est pas passé de l'élitisme d'autrefois au nivellement par le bas? C'est un peu la question que pose
aujourd'hui
Emmanuel.
C'est plus tellement la Comédie Française qu'on va retransmettre à 20h30 comme dans mon enfance. Je me souviens d'une Électre de Giraudoux, retransmise de la Comédie Française. Oui. Aujourd'hui c'est plutôt mon cul sur la commode.
Tout à fait. Ah. Mais ça, je suis d'accord.
Mais c'est même pas la biche, hein, non
oui,
plus.
Oui, c'est mon cul sur la commode.
C'est certain, ça. Il y a un recul parce qu'il y a une. La multiplicité des chaînes n'a pas créé la diversité. Oui. On arrive à une certaine unification et ça, c'est très dommage. Mais ça, c'est la responsabilité de ceux qui sont à la tête des chaînes et de ceux qui financent, si vous voulez. Ceci étant, lorsque vous prenez un programme un soir, vous pouvez quand même faire un choix qui puisse vous intéresser dans la multitude de ce qui vous est proposé, me semble-t-il, non ?
La concurrence, c'est vraiment un moment... Vous êtes arrivé à la télé au moment où la télévision française a découvert la concurrence, oui. Hein, Hervé Bourges. Oui. Et à un moment, alors vous racontez que, je ne sais plus qui, les députés vous disent « Mais pourquoi vous ne repassez pas les grandes dramatiques d'autrefois ?» Ils voulaient tout le temps que vous repassiez « Les Rois maudits hein ». Et
Maurice Schumann, hein, qui était président de la commission culture au Sénat. Maurice Schumann, l'ancien résistant, vous rappelez.
Et alors on se souvient tous que etc. Les Rois maudits, moi j'étais enfant, c'était extraordinaire et ça avait été un très grand succès.
C'était formidable.
Et quand vous l'avez rediffusé.
Et Maurice Schumann me dit pourquoi vous ne rediffusez pas Les Rois maudits? Mais je lui dis, écoutez, vous savez, ça va être difficile aujourd'hui de le faire en l'exposant convenablement, etc. Meurt Claude Barma, qui était le réalisateur des Rois maudits, et qui est le père de Catherine Barma, qui est maintenant il fait l'émission de Ruquier le samedi soir, et on repasse Les Rois maudits, et Maurice Schumann et la commission parlementaire de la culture du Sénat me félicite, me dit on va vous voter une motion de félicitation, c'est extraordinaire, vous allez repasser Les Rois maudits. Et ça a dû faire un tabac, j'ai dit malheureusement, non, ça a été complètement écrasé par la concurrence. Mais comment c'est dit? Par qui? Et je leur dis par Foucault. Et Maurice Schumann me dit, Foucault, il est mort.
Charles de Foucault. Bah,
Michel Foucault.
Non. Il pensait à Michel Foucault. Et en fait, c'était Jean-Pierre Foucault qui avait pas
dit. Bien sûr.
Philippe Graber.
C'était extraordinaire. Alors, moi, je dirais que il faut arriver, je pense qu'aujourd'hui, quand même, la télévision en fait quand même des efforts dans ce domaine, à pouvoir proposer des programmes qui intéressent un public divers. Je crois qu'il y a ça a évolué quand même qualitativement. Et le fait qu'il y ait beaucoup de chaînes de télévision et qu'on puisse avoir des chaînes de télévision ailleurs, même qu'ici, oblige les chaînes de télévision à faire attention, je pense. Même si il y a des programmes qui sont en dessous de la ceinture et qui attirent le public parce qu'il faut que la publicité puisse trouver son financement.
La multiplication des chaînes, vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que ça amène plus de savoir, plus d'attention? Moi, je crois au contraire que cette multiplication nous fait voir plus de choses, mais mal. C'est-à-dire qu'un minimum d'exigence qui nous amènerait quand même à rester sur un film qui nous oblige à réfléchir un peu, ça n'existe plus, puisqu'on zappe aussitôt dès qu'on s'ennuie. C'est peut-être le problème qu'ont rencontré les grandes sociétés de cinéma qui proposent des cartes. Maintenant, il paraît que ça pose un problème dans les salles, je l'ai entendu dire, je ne l'ai pas expérimenté. C'est-à-dire que les gens qui ont une carte d'abonnement, ils peuvent aller voir tous les films qu'ils veulent, sortent au milieu d'un film dès que ça les ennuie un peu, parce qu'ils ont payé la carte, donc ça, ils ne payent. Et c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on a l'impression
quand
même
que... Parce que du coup, ils vont voir des films qu'ils ne seraient pas allés voir, de ne pas les intéresser.
Oui, mais alors ils sortent au milieu, alors que s'ils avaient payé, ils seraient assis jusqu'au bout. C'est assez curieux.
C'est le propre de la télévision et du zapping.
Il y a un zapping, c'est pas forcément une excellente forme de culture ni d'approfondissement.
Pourquoi, dernière question, Hervé Bourges, pourquoi fallait-il un grand groupe de télévision publique, celui que vous avez fondé, hein, France Télévisions, c'est vous qui en avez choisi même le nom, parce que c'était impossible sinon avec le câble qui allait arriver, le satellite, sinon rien n'aurait tenu.
Moi, j'étais tout à fait pour le regroupement des chaînes de services publics, à l'image de ce que fait la BBC, qui est quand même souvent citée en modèle, et même si la télévision française n'est pas la BBC. Je dirais même que pour l'audiovisuel extérieur, j'aurais bien voulu faire un grand groupe qui puisse permettre, dans sa diversité, hein, d'offrir aux téléspectateurs quelque chose d'un petit peu différent, parce que pas complètement entre les mains de la publicité. On laisse ça au privé. Et en même temps, vous savez, je me suis toujours battu, moi, lorsque j'étais sur les chaînes publiques, contre les parlementaires qui voulaient absolument, et contre les chaînes privées, qui voulaient absolument que les grands sports, les grandes séries, etc., soient l'apanage de la télévision privée, pendant que les chaînes publiques seraient dans leur coin en train de proposer des programmes que les téléspectateurs ne regardent pas. Parce qu'il faut quand même bien se dire une chose, on peut critiquer la télévision française d'aujourd'hui, elle a quand même beaucoup évolué, et parfois dans le bon sens. Vous ne pouvez pas imposer des programmes les téléspectateurs, vous pouvez simplement leur proposer des programmes qui soient quand même de qualité. Et si vous regardez toutes les chaînes de télévision publique, privée, vous trouvez quand même des programmes de qualité, y compris avec celles que l'on peut prendre à l'extérieur.
Hervé Bauche, vous dites qu'il est plus difficile de diriger France Télévisions qu'Air France, Elf ou la SNCF.
Oui.
La preuve d'ailleurs, c'est que jamais un président de France Télévisions n'a été renouvelé. 5 ans, c'est pourtant court, hein, c'est le mandat,
oui,
et ils n'en font jamais deux. Les dirigeants du privé, eux, restent parfois pendant très longtemps, comme Patrick Lelay ou la direction d'M6, oui, qui est la même depuis quasiment la naissance d'M6. Canal+, à chaque fois, ça reste très très longtemps. C'est doublement difficile d'être président de France Télévisions, et on va voir là, cette année, le renouvellement qui va être fait à la tête de France Télévisions.
Oui, en même temps, les chaînes de télévision ont trouvé, disons, leur liberté grâce à la création d'un organisme de régulation comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel aujourd'hui. Je trouve que c'est tout à fait positif, et dans le même temps, l'actionnaire, c'est l'État. Et l'État veut toujours regarder le presse qui se fait à la télévision et pouvoir en profiter. Mais je crois qu'on va arriver petit à petit quand même à une stabilité dans ce domaine. Sauf que il faut se battre et il faut surtout pas courber les chines.
Je vous remercie tous les 5 d'avoir participé à cette émission. 50 ans de télévision racontée par Hervé Bourges, Pierre Belmar, Alain Decaux, Pierre Tchernia, Patrick Poivre d'Arvor et les autres. C'est comme ça que c'est écrit sur la couverture. Ces grands entretiens sont édités par Le Passeur. Éric-Emmanuel Schmitt, vous êtes sur la scène du Théâtre Rive Gauche avec Marie-Claude Pietragala dans l'Élixir d'amour jusqu'au 14 mars. Cécilia Duterre, vos conseils de séduction à l'usage des hommes de mauvaise volonté sont parus aux éditions du Rocher. Philippe Grimbert, Rudic, l'autre Nouvreyev, votre nouveau roman, c'est chez Plon. Et Karen Brunon, votre premier album, La fille idéale, est dans les bacs. Nous, on se retrouve demain dans un instant, c'est Europe Nuit avec Emmanuel Faux.